Alors avant tout, bonsoir tout le monde. Je voudrais remercier logiquement Cristina Marigno et Jean-Baptiste Amadieu pour l'invitation qu'ils m'ont faite, et même tous les gens qui ont parlé jusqu'à maintenant et les gens qui suivront, parce que j'ai beaucoup aimé jusqu'à maintenant le colloque. Il a été très riche. Comme disait Isabelle, le titre de ma communication est relatif à Diniz Machado. Diniz Machado est un écrivain portugais qui a écrit relativement peu, parce qu'il a écrit en fait 7 romans. S'il fallait une étiquette pour le définir, on pourrait parler de revirement. Parce que finalement, toutes les fois que Diniz Machado s'est mis à écrire, il a complètement reviré le genre dans lequel il écrivait. C'est pourquoi j'ai choisi de mettre une phrase aussi de Fernando Pessoa, parce que logiquement, sous la dictature, comme disait Fernando Pessoa, « Duvido, portanto, penso », »,« Je doute, donc je pense », et penser et avoir des doutes sous la dictature est extrêmement dangereux. Avant, je voudrais parler simplement du genre, dans ce cas ce sera le policier, mais aussi expliquer la façon dont le policier finalement arrive à s'enfuir des griefs de la censure, au moins au Portugal, et je veux dire simplement pour deux romans de Diniz Machado. La phrase de Léo Strauss, puisqu'il est allemand, nous l'avons entendu maintes fois, et je suis même d'accord qu'à la fin, peut-être, ça ne marche pas tellement bien pour ceux qui regardent la censure, mais on va en parler ensuite. Et Léo Strauss disait que la censure se limite à préparer le terrain, c'est-à-dire c'est sur le long délai, elle se limite à préparer le terrain au conformisme, faisant taire ceux qui peuvent le contredire. Et justement, pour ceux qui regardent la censure, il y a des genres qui peuvent s'enfuir de la censure. Les genres, dans ce sens, c'est la paralittérature, ce que des critiques de la littérature ont défini comme paralittérature, c'est-à-dire le roman rose, le roman de science-fiction, la bande dessinée et le roman policier. Pour ceux qui regardent le roman policier, la grande époque du roman policier au Portugal, c'est les années 50. Nous avons plusieurs collections qui sortent. Une qui est encore aujourd'hui, elle est encore éditée, c'est la collection Vampiro. Ensuite, nous avons O Escaravelho d'Oro, qui est un hommage à Edgar Allan Poe. Ensuite, nous avons aussi la collection Schiss. Et disons que cette formule du roman policier, surtout d'origine américaine et anglaise, a beaucoup de, comment dirait-on, beaucoup de fortune éditoriale, parce que le policier est un genre qui arrive à s'enfuir, c'est-à-dire c'est un genre qui sort, il y a beaucoup de textes qui sortent, presque tous les mois il y a des textes qui sortent, et donc la censure n'arrive pas en fait à contrôler tout ce qui sort. En plus, au Portugal, nous avons aussi de très belles couvertures, comme vous voyez, par exemple, Cândido Costa Pinto, qui est un artiste, ou encore Roberto de Araújo Pereira. Donc, nous avons des couvertures qui sont extrêmement belles et qui, donc, attirent le lecteur. Mais de quelle façon peut-on écrire des policiers au Portugal? Il y a quand même, il faut prendre des précautions. Une des précautions, c'est de ne pas faire... l'histoire du policier ne doit pas se dérouler au Portugal, bien entendu. Parce que, étant une dictature, les dictatures n'aiment pas qu'il y ait des crimes à l'intérieur du propre pays. Alors, la première chose à faire, c'est de déplacer l'intrigue ailleurs. Si c'est loin, c'est encore mieux. D'autant plus que le grand succès du policier au Portugal est dû... aux collections, aux exemples américains et anglais, d'habitude, on le déplace aux États-Unis. Et une autre précaution à prendre, il faut qu'il s'agisse de traduction. Donc, ce n'est pas des textes qui ont été écrits en portugais par des Portugais, mais ce sont des textes qui ont été écrits par des Portugais en portugais, mais qui doivent sembler être des traductions. Alors, c'est pourquoi on adopte le pseudonyme. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, Rosa do Pinto, il s'appelle Ross Pin. Ou bien nous avons encore un autre exemple, Antonio Andrade Albuquerque, qui adopte comme pseudonyme Dick Askins. À ce propos, c'est-à-dire le problème qu'on se pose à ce propos, c'est Mais est-ce que la censure vraiment était tellement myope de ne pas Rosa Dupinto et Rospin, je veux dire, non, c'est assez évident le calque du nom. Alors, est-ce que la censure était tellement myope qu'elle n'arrivait pas à voir qu'il s'agissait d'une arnaque? On ne sait pas, en fait, on ne peut pas le savoir, mais il y a un épisode qui est très amusant, pour moi, au moins, c'était très amusant à propos d'Antonio Andrea d'Albuquerque, qui a été un grand succès littéraire même à l'étranger, parce qu'il a été traduit en 23 langues, et un de ses livres qui s'appelle « Persecução », il y a un chapitre qui se déroule à Lisbonne, et logiquement, la police portugaise s'en sort d'une façon remarquable. Alors un jour, l'éditeur reçoit un coup de téléphone parce qu'il y avait le ministre de la Justice qui voulait à tout prix rencontrer Dick Haskins. Alors, imaginez-vous le désarroi à l'autre bout du fil. Bon, à propos de... Donc, ce que je voulais dire, c'est que finalement, la paralittérature fonctionne. On arrive, à travers la paralittérature, à s'enfuir aux grèves de la censure. En marge, on travaille mieux. Et maintenant, on va parler de Denise Machado, qui est justement l'écrivain qui est le sujet de ma communication. Alors, Denise Machado, je vous l'ai dit, elle écrit finalement seulement sept volumes, et dont trois sont des policiers. Logiquement, il doit adopter les mêmes choses que adopte Rosa Dupinto et les autres. Donc, avant tout, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un pseudonyme. Son pseudonyme, attendez, voilà, son pseudonyme, là aussi, est suffisamment transparent, non? Dinich devient Dennis et Machado, c'est un nom calque, il devient Mechshade. Donc il y a aussi la shade, c'est-à-dire il y a l'ombre. Alors je me suis demandé, pourquoi a-t-il adopté ce nom? Logiquement pour se moquer de la censure, j'imagine. Mais aussi parce que finalement c'est un hommage qu'il rend à Dashiell Hammett, le grand écrivain de policiers des années 30. Et le livre très fameux de Dashiell Hammett était The Thin Man en anglais, qui a été traduit l'introuvable en français, mais qui au Portugal avait été traduit comme Homem Sombra, donc l'homme ombre, dont on avait tiré même le film extrêmement fameux de la même année, de 1934. De quoi parlent les trois policiers une chose aussi qu'il faut que je dise, c'est que alors il déplace son histoire aux États-Unis. Les années qu'il décide de choisir, ce sont les années 30. Et pendant les années 30, nous avons la naissance pratiquement de la mafia, ce que la presse nomme aux États-Unis le syndicat national du crime. Donc il a pris toutes les précautions pour pouvoir s'enfuir de la censure. Mais disons que Denise Machado commence vraiment à tirer sur la corde quand il s'agit du protagoniste. Parce que le protagoniste n'est pas un détective à la Philip Marlowe, n'est pas un policier comme Maigret, mais c'est un tueur à gages. Donc le tueur à gages, d'habitude, c'est le pire criminel qui existe au monde. Non, parce que c'est une personne qui fait des crimes simplement pour être payé. Pour avoir de l'argent en échange. Après quoi, là aussi, il joue sur les noms. Son protagoniste s'appelle Peter Maynard. Et j'ai mis ensuite nomen omen parce que le nom est un destin. Alors, là, il faut faire appel à Borges. Non, avant tout, il faut que je vous dise ça aussi qui est très important. C'est que finalement, il s'agit encore là d'une traduction. Comme Dinis était devenu Dennis et Machado était devenu Mechshade, là aussi, nous avons Pierre qui devient Peter et Maynard qui devient Maynard. Le Pierre Maynard, je pense que vous le savez, c'est le protagoniste d'un des contes plus connus de Borges. Et justement, ce matin, on avait parlé de Borges comme un écrivain qui écrit vraiment, même pas entre les lignes, mais c'est vraiment c'est presque indéchiffrable, non? Et dans ce récit, dans ce conte du Don Quichotte, de Borges, on raconte l'histoire de ce Pierre Maynard qui passe une partie, c'est un érudit, et il passe une partie de sa vie à écrire, à réécrire simplement deux chapitres et demi du Quichotte de Cervantes. Mais, dit Borges, il ne s'agit pas d'une, il ne copie pas le texte, simplement avec son expérience d'homme du XXe siècle, avec sa culture, il réécrit, même si le texte est exactement le même. Et Borges nous dit, le texte, moi j'arrive pas à voir, le texte de Cervantes et celui de Ménard sont verbalement identiques, mais le second est infiniment plus riche, plus ambigu, diront ses détracteurs, mais l'ambiguïté est richesse. Donc disons que le lecteur avisé de Denis Machado, alias Dennis McShade, comprend, ou tout au moins disons que Denis Machado espère que le lecteur comprenne cette référence. Parce que logiquement, ce qui joue dans la citation, ce qui a un rôle extrêmement important dans la citation de Borges, c'est quoi ? C'est l'ambiguïté et c'est la richesse. D'ailleurs, qu'est-ce que fait Borges avec ce roman, avec ce conte ? Il anticipe la théorie de la réception dont nous avons parlé aussi ce matin, c'est-à-dire c'est le lecteur qui est au centre. Non, il anticipe d'une trentaine d'années avec Yaus. Alors, moi, je ne peux pas dire que Denis Machado connaissait la théorie ensuite développée par Yaus. Mais certainement, il avait compris, il avait très bien compris le conte de Borges. Et surtout, il avait compris que c'est au lecteur de comprendre. C'est le lecteur qui interprète. Donc, il donne un avis au lecteur, essaye de me lire entre les lignes. Ce que je raconte doit être réinterprété dans la situation où nous sommes, c'est-à-dire sous la dictature et avec une censure qui, au Portugal, a été particulièrement féroce. Léo Strauss, comme nous disions ce matin, il écrit peut-être d'une façon, selon moi, un peu simpliste, qu'un écrivain prudent et d'intelligence normale est plus intelligent que le censeur plus perspicace. Alors que ce matin, on a vu que ce n'est pas tout à fait comme ça, que d'habitude les censeurs sont beaucoup plus perspicaces de ce que nous imaginons. En plus, pourquoi le choix de Borges ? Parce que Borges et Bioy Casares avaient, eux aussi, écrit des romans policiers. Ils avaient écrit des romans policiers avec pour protagoniste Don Isidro Parodi. Et la chose très intéressante, c'est que Don Isidro Parodi est en fait un homme qui résout les cas qui lui sont proposés dans une prison. Dans une prison parce qu'il a été accusé injustement d'avoir tué un boucher. Donc, disons que Bioy Casares et Borges, qu'est-ce qu'ils font ? Désacralise, exactement, deux principes de la littérature, c'est-à-dire le premier, c'est que de la paralittérature, il s'agit d'une littérature d'évasion, non ? Le roman policier est considéré comme un roman d'évasion, mais Isidro Parodi est enfermé dans une prison, donc on n'a plus le roman d'évasion. Et en plus, Denis Machado, lui aussi, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne la parole à un homme. On dit que le crime ne paie pas, tandis que le crime étant Ménard étant un tueur à gages, le crime paie. Donc les deux essayent de bouleverser des lieux communs, l'un comme l'autre. Un autre personnage qui sort dans les livres de Denis Machado, c'est Camus. Camus, logiquement, il ne vient pas citer, mais le personnage, le Peter Maynard, il a une conscience qui l'afflige, et d'habitude, quand il pense, cette conscience qui lui fait venir aussi l'ulcère, quand il pense, Denis Machado écrit en italique. Donc, il fait remarquer au lecteur qu'il s'agit là d'une conscience, une conscience extrêmement troublante. Pour ceux qui regardent, attendez que je me suis perdue entre-temps. Hmm. Donc, je vous disais, Albert Camus se manifeste dans les monologues intérieurs, existentialistes, signalés dans le texte par l'italique. Ménard, le protagoniste, est un anarchiste désorienté. Il conduit sa révolte personnelle, n'adhérant à aucun code et combattant l'injustice. « Je me révolte, donc nous sommes », disait l'homme révolté de Camus. Et Ménard est un homme plein de contradictions qui, jusqu'à la dernière aventure, sauve sa peau. Mais à quel prix ? Malgré son métier, il reste un naïf, un idéaliste, un homme moralement vulnérable. Il ménage sa pureté qui contrarie sa profession et surtout combat, se destinant à l'échec, une société hypocrite, laquelle professe des valeurs auxquelles elle ne croit pas. Qu'est-ce qu'un homme révolté ? Demande à nouveau Camus, un homme qui dit non. Et le protagoniste et Denise Machado disent les deux non. C'est encore une fois Camus qui écrit une phrase qui, à elle seule, pourrait justifier l'activité de Ménard. Il faut se venger de devoir mourir seul. La mort est solitaire, tandis que la servitude est collective. Et Ménard, qui risque tout le temps sa vie, poursuivi par la police, par le syndicat du crime ou par les criminels tout court, est un solitaire. Par contre, la société, d'autant plus celle portugaise de l'époque, est une société totalement asservie. Alors, pour retourner au texte, aux trois romans qui ont été écrits par Denise Machado, le premier s'appelle La main droite du diable. Et dans le premier, le sicaire accepte de venger le suicide de la fille d'un millionnaire qui, 8 ans auparavant, avait été violée par 4 truands. Ménard mène son enquête, mais après le deuxième règlement de compte, le syndicat du crime invite le sicaire à ne pas mener à terme la consigne. Inutile préciser que le protagoniste ne se souciera point de ses avertissements, autant que ceux de la police. Seul contre tous, l'homme qui dit non, il arrive à s'en sortir, mais sa confiance dans l'homme reçoit un coup fatal, comme le manifestent les monologues en italique, de plus en plus fréquents dans le livre. À la fin, après avoir accompli sa mission, il est obligé à s'enfuir à Rome. Dans le volume suivant, donc, Denise Machado écrit 3 romans dans 2 ans, 1967-1968. Dans le roman suivant, qui s'appelle « Requiem para Don Quixote », le syndicat lui permet de rentrer aux États-Unis, pourvu qu'il accepte de tuer le caïd Big Shelley. Ménard s'occupe à contre-cœur de l'affaire. Tout d'abord parce qu'il n'arrive pas à s'en... Tout d'abord parce que c'est une commission qui lui a été donnée par le syndicat du crime. Ensuite, parce qu'il n'arrive pas à se renseigner sur la victime. Et enfin, parce qu'il porte, Big Shelley, le nom d'un poète, Shelley. À la fin, un coup de téléphone anonyme le renseigne sur la cachette de Big Shelley. Et celui-ci semble presque l'attendre. Entre les deux s'instaure une sorte de complicité pour la passion commune qu'il porte à nouveau au Don Quichotte. Acho, dirà le protagoniste, que Don Quixote représente vittoria du spirito sobre la materia, la victoire de l'esprit sur la matière. Donc le lecteur entre les lignes pourra comprendre à quoi fait référence Denise Machado. Et celle-ci sera la mission que le caïd confiera à son tour à Ménard. Le voilà seul contre tous, pris dans un engrenage qui l'obligera à se réfugier à Rome. Avec le troisième roman s'achève. Voilà. Avec le troisième roman s'achève les aventures de Peter Ménard à cause de la censure qui commence à soupçonner que quelque chose ne tourne pas rond. Aventures et personnages résultent un peu trop perturbateurs, difficiles à faire entrer dans le périmètre étroit du policier. Voilà de quelle façon je me suis trompée. Voilà, c'est celle-ci. Donc, voilà de quelle façon José Xavier Ezequiel nous décrit la rencontre entre Denise Machado et le censeur. De cette façon, même la censure sentit un rat. Ce n'étaient pas des romans policiers comme les autres. Lorsque le troisième était sur le point de sortir, Denise Machado, en tant que directeur de la collection, est appelée par voie d'ordonnance par le majeur. « Monsieur, il y a ici quelque chose, vous voyez, qui me semble un peu de trop. » Denise Machado lui garantit qu'il ne devait pas se préoccuper car ce roman était le dernier qu'ils avaient acheté au Gringo. Et l'autre, à la fin, accepta. « Bon, si c'est comme ça, allez-y. » Donc, il arrive à publier quand même son troisième roman. Mais avec le troisième roman, le cercle se referme, parce que logiquement, il ne peut plus rien publier. Dans ce troisième roman, qui s'appelle Don y arma con guitarra espagnola, qui semble un tableau de Picasso, l'intrigue est encore plus subtile et moins policière. Ménard doit enquêter sur un autre sicaire, Umenino, qui apparemment avait empoché $10,000 pour une mission qu'il n'avait pas menée à bout, après quoi il avait disparu. Cette enquête conduira le protagoniste dans une affaire plus politique. Il s'agit de l'organisation pro-nazie John Bird Society, qui existe réellement. La censure portugaise désemparée, comme on l'a vu, décide de couper net. Plus jamais de traduction. Mais pourquoi ? Serait-ce la référence à une société réelle, ultra-conservatrice et d'inspiration fasciste, justement la John Bird Society, ou plutôt l'intrigue, qui désormais est trop impalpable ? Ménard, bien entendu, résoudra l'affaire, mais l'antagoniste, cette fois, n'est plus ni la police, ni le syndicat du crime, mais la politique. La phrase prononcée par l'ami Johnny, qui travaille avec la mafia, est lapidaire. Isso da polícia è chato, e sa gente fanatica, in certos aspettos, são piores do que nós. Pourtant, la politique est considérée pire presque que la mafia. Logiquement, cette phrase n'est pas facile à digérer dans un pays où la politique était prérogative du parti unique au gouvernement, n'existant pas d'opposition. En 1968, tandis que l'Europe est parcourue par le vent révolutionnaire, la censure impose à l'éditeur Ibis de ne plus publier les aventures de Denis McShade. Denis Machado, comme on l'a vu, s'esquive, disant qu'ils avaient déjà décidé de ne plus acheter les romans de cet écrivain américain un peu trop singulier, qui ne rentrait pas dans le paradigme du policier. Denis McShade retourne dans l'ombre, peut-être en marmonnant la phrase de Camus « Tout homme est un criminel qui s'ignore ». Le roman policier est un genre qui a souvent risqué de se consommer. La répétitivité de la recette « crime, enquête, solution » résulte d'une part très rassurante, mais d'autre part asphyxiante. C'est pourquoi le roman policier, pour lequel souvent on a sonné le glas, est autant de fois ressuscité grâce à l'introduction de nouveaux ingrédients. C'est le cas de Agatha Christie, qui, à la méthode positiviste de Conan Doyle, ajoute l'intuition, ou de Hammett et Chandler, qui ont ramené le crime dans les rues, le sortant des salons, ou encore de Borges, qui l'a paradoxalement renfermé en prison, le confiant à un détenu, ou encore de nos jours, Camilleri en Italie, Manuel Vázquez Montalbán en Espagne, Izzo en France et Mercaris en Grèce, qui ont fait de l'intrigue un prétexte pour dénoncer corruption, débauche, actes criminels de tout genre. Bien avant de ces derniers, Denis Machado avait introduit les éléments subversifs pour combattre à sa façon la dictature. Ces variations sur le thème ont presque rendu méconnaissable le genre, d'autant plus que le policier est un genre réactionnaire. Le crime qui frappe la société, la rendant chaotique, une fois résolue, la fait rentrer dans le status quo. Vice-versa, dans les romans ayant Peter Maynard pour héros, le lecteur ne se détend jamais. Il est toujours inquiet, car il n'y a jamais de heureux dénouement. Les bouleversements n'en finissent pas là. On connaît dès le début la victime, logiquement il s'agit d'un tueur à gages, qui n'est jamais une victime, par contre, d'habitude, c'est un bourreau. Entre autres, le genre qu'auparavant nous avons rangé dans la paralittérature ou littérature de masse, ici est mélangé à la littérature tout court. Nous avons vu les références explicites, même si jamais les deux noms apparaissent clairement, de Borges et Camus, les lectures de Ménard, il lit Rilke, Lorca, Cervantes et bien d'autres, les épigraphes, Mallarmé, Cervantes, Grimm, les références culturelles, la musique classique, la peinture, le cinéma, ce sont tous des éléments qui poussent à croire que la culture, harcelée sous la dictature, peut représenter une échappatoire. Une dernière déstabilisation, mais la liste serait longue, regarde l'Espagne, compagnon d'infortune de la péninsule ibérique sous la dictature de Francisco Franco, qui est souvent présente. Il suffit de penser aux deux derniers titres, Requiem pour Don Quichotte et Mulier y arma con guitarra espagnola. Cette union, encore une fois, renverse le cliché qui fait des Espagnols les ennemis jurés des Portugais, anticipant de plusieurs années le roman onirique de José Saramago, Le Rado de Pierre. Mais je ne voudrais pas terminer cette... J'ai encore du temps ? 5 minutes ? Alors, je vais résumer à toute vitesse. 5 minutes, mais la carrière de Denis Machado, de Denis McShade, ne s'achève pas là. Il sera protagoniste après le 25 avril avec un roman, Ukidij Molaero, qui a été aussi traduit en français, où il décrit un Portugal, et il est considéré le roman de la liberté, parce que finalement il écrit une histoire tellement amusante. En 1977, Eduardo Lourenço disait qu'il a fallu 2 ans au Portugal pour écrire à nouveau quelque chose qui ait le goût de la liberté. Et c'est justement ce roman qui raconte le Portugal des années 40. Le régime est là, bien entendu, mais le régime reste en arrière-plan. Ce qui compte, c'est le peuple, et surtout c'est un peuple très amusant qui fait de la solidarité et de la solidarité son mot de passe, alors que nous savons que le régime faisait de la délation le mot de passe. Mais ce livre a un grand succès au Portugal, à l'étranger. Il a été traduit en plein de langues, avec une langue qui est merveilleuse, vraiment merveilleuse. Mais Denise McShade, donc ce roman de Ce que dit Molaero vient publier avec le nom de Denise Machado, il n'a pas besoin de pseudonyme, mais Denise McShade va revenir en 1985-1986. Denise Machado écrit un roman qui s'appelle Black Pot, un tout petit roman de quelques pages, mais il le renferme dans un tiroir, et il sera publié seulement l'année suivante à sa mort, en 2009. C'est une toute petite histoire. Il s'agit de 13 tueurs à gages, désormais en fin de carrière. Un est myope, l'autre boite, l'autre a des problèmes avec le père qui est mort il y a 30 ans auparavant. Il est vraiment génial. On n'arrive pas à comprendre pour quelle raison pratiquement ces tueurs à gages s'entretuent. Et le dernier, Victor, logiquement, c'est celui qui, à la fin, réussira à survivre. Et il rentre à la maison, c'est la dernière page du roman qui compte, je pense, une cinquantaine de pages, pas plus. Il rentre à la maison, il sort de sa bibliothèque un livre, La chute de Camus, et il lit une phrase qui, depuis toujours, le met hors de lui. « Quand nous serons tous coupables, alors il y aura la démocratie. » Ce texte a été écrit à 10 ans de la Révolution, presque 11 ans de la Révolution. Alors, de la démocratie, donc. Qu'est-ce que je me suis dite ? Peut-être le Portugal, après 10 ans, n'avait pas la conscience qui, finalement, était la caractéristique du tueur à gages Peter Menard. C'est pour ça que Denise Machado décide d'adopter un pseudonyme. Ou tout simplement, comme on disait ce matin, il s'agit d'un phénomène d'autocensure, un sens de responsabilité. La démocratie était encore trop jeune, elle courait encore un danger trop grand. Et alors, il a eu la responsabilité de ne pas faire publier ce roman. Merci.